France Inter, Élysée 2022. Léa Salamé, Nicolas Demorand. Face au 7-9.
Et bienvenue dans une nouvelle édition de nos matinales spéciales présidentielles. Vous connaissez désormais le principe. Le 7-9 reçoit les candidats pour une interview à 360 degrés. Leur programme pour la France, les questions politiques, écologiques, économiques, internationales et toutes les vôtres, amis auditeurs. Je compte sur vous au 01 45 24 7000. Sur les réseaux sociaux et l'application mobile de France Inter, vous aurez largement la parole dans une grosse vingtaine de minutes.
Et aujourd'hui, c'est Marine Le Pen qui est notre invitée. Bonjour Marine Le Pen.
Bonjour.
Bonjour.
Merci
d'être à notre micro. Vous serez interrogée jusqu'à 9h30 par les éditorialistes du 7-9, Dominique Seux sur l'économie, Sandy Dauphin sur l'écologie, Yael Gauss sur la politique, Pierre Aski sur l'international et c'est Augustin Trapenard qui viendra clore la matinale en vous posant la dernière question culture.
Marine Le Pen, c'est votre troisième candidature à l'élection présidentielle et je vais vous poser la même question qu'à Jean-Luc Mélenchon qui était à votre place il y a 2 semaines et qui lui aussi mène sa troisième campagne. Votre première candidature, c'était en 2012. Depuis, les grands partis politiques ont été ébranlés ou se sont disloqués. La vie politique se fait en direct au rythme effréné des réseaux sociaux et des chaînes d'infos en continu. Est-ce que vous aimez ce monde-là, le nôtre aujourd'hui, ou avez-vous la nostalgie du monde d'avant cette frénésie, notamment médiatique ?
Non mais moi je suis pas nostalgique si vous voulez, j'aime le progrès, j'aime ce qu'il peut apporter, j'aime la révolution technologique qu'on est en train de vivre pour peu qu'elle soit régulée et qu'elle n'apporte pas du malheur ou de la confusion. Si vous voulez, derrière il y a des fondamentaux quand même, derrière ces évolutions. Il y a toujours eu des évolutions technologiques, il y a des fondamentaux. C'est ces fondamentaux-là que je défends et qui sont en quelque sorte inscrits dans notre ADN et donc dans notre Constitution. Donc il ne faut pas qu'on y perde notre humanité, il ne faut pas qu'on y perde de l'existence d'une relation sociale, il ne faut pas qu'on y perde aussi des références communes, parce que c'est ça qui crée le lien aussi entre les générations. Mais sinon, je ne suis pas nostalgique, moi.
Le fond aussi, il ne faut pas qu'on y perde le fond, parce que c'est
bien
vrai
sûr
qu'une polémique chasse l'autre.
Ah non, mais là, vous avez raison, sur la gestion de la politique, ça devient effectivement compliqué. Et il faut conserver la capacité d'offrir, et c'est le rôle des médias, et c'est pour ça qui sont fondamentaux dans le fonctionnement de la démocratie. Offrir aux Français la capacité de savoir pour qui ils peuvent voter, c'est-à-dire quelles sont les idées de ceux qui se présentent devant eux.
Donc vous ne tenez pas les mêmes mots durs d'Éric Zemmour contre les journalistes, vous ne parlez pas pareil.
Mais moi j'attends beaucoup des journalistes, ils font pas tous, je trouve correctement, leur travail, mais si je puis me permettre, c'est le cas de beaucoup de professions. Mais je pense que la politisation des journalistes est quelque chose qu'il faut combattre. C'est vrai qu'il faut qu'ils aient une forme de neutralité, même si humainement c'est difficile d'être neutre, mais c'est un objectif idéal, dirons-nous, d'avoir cette objectivité, particulièrement, il faut bien le dire, sur le service public, puisque par définition, il est financé par l'ensemble des citoyens.
Marine Le Pen, à chaque élection, il y a eu pour vous un plafond de verre. En 2012, vous n'accédez pas au second tour. En 2017, vous ratez le débat de l'entre-deux-tours, vous l'avez reconnu. Qu'est-ce qui vous laisse penser en 2022 que le plafond n'est pas toujours là et qu'il n'est pas toujours aussi épais ?
Bon, moi, j'ai jamais su ce que c'était que le plafond de verre. Je pense que c'est une construction intellectuelle qui, à mon avis, n'a aucune réalité.
C'est rater la dernière marche.
Bon, non, mais d'accord, c'est donc ne pas gagner. Bon, ben d'accord. Chaque fois qu'on gagne pas, on pourrait dire que on est confronté à un plafond de verre. Non, il y a pas le plafond de verre. Ça voudrait dire que structurellement, il y a une impossibilité pour nous de gagner. Or, ça n'est pas vrai. On nous avait dit aussi qu'il y avait un plafond de verre pour les municipalités. On s'est présenté une fois, on l'a raté. On s'est présenté, par exemple, à un moment, une deuxième fois, on l'a raté. La troisième fois, on a gagné. Donc, il y a pas de plafond de verre. Il y a juste une évolution du taux d'adhésion que vous pouvez susciter.
Au régional, il y a eu un plafond de verre.
Non,
on disait que vous
Non, mais le plafond de verre des régionales, c'est l'abstention. Pardon, il y a eu un plafond de verre pour tous ceux qui n'étaient pas sortants, puisque tous les sortants ont été réélus précisément en raison de l'abstention. Donc je pense qu'il n'y a pas de raison structurelle, si vous voulez, pour nous empêcher de gagner. En revanche, si derrière ce plafond de verre, vous évoquez le Front Républicain, alors oui, je crois que ce Front Républicain n'existe plus pour le coup, qui était la coalition de toutes les forces politiques contre le candidat des idées nationales.
Les Le Pen, c'est une dynastie politique inédite en France. Vous avez critiqué l'idée de plafond de verre, mais est-ce que ce n'est pas ça, aujourd'hui, votre vrai plafond de verre, une lassitude de la marque Le Pen, entre guillemets, et le souvenir aussi de ce qu'a incarné votre père avant que vous ne repreniez en main le parti ?
Non, je crois pas du tout. Je sais que certains le souhaiteraient, mais ça n'est pas le cas. C'est l'analyse d'Éric Zemmour, d'ailleurs, hein, qui pendant longtemps a dit, de toute façon, avec un nom Le Pen comme celui-là, que ce soit le père, la fille ou la nièce, ils n'arriveront jamais à gagner. Je crois pas du tout à ça, parce que parallèlement à ce nom est aussi associé le courage, la pugnacité, la conviction, la capacité à résister. Mmh. Et c'est pas inutile, croyez-moi, dans la vie politique.
C'est aussi l'analyse de votre nièce Marion qui a enlevé entre guillemets publiquement le nom Le Pen.
Oui, mais c'est pas parce qu'on enlève son nom qu'on retire ce qu'on est.
Une étude Kantar pour Le Monde et France Info publiée lundi montre que votre image, Marine Le Pen, s'est considérablement adoucie. Seuls 40% des sondés voient en vous la représentante de l'extrême droite nationaliste et xénophobe. C'est 11 points de moins qu'en 2018. Vous restez pourtant profondément clivante. Un Français sur deux estime que vous êtes un danger pour la démocratie. Les sondés vous reconnaissent par ailleurs des traits positifs, volontaires, capables de prendre des décisions ou de comprendre les problèmes des Français. Mais sur tous ces points positifs, vous êtes moins convaincante que par le passé. Exemple, 80% vous trouvez volontaire en 2017, ce n'est plus que 62% aujourd'hui. La responsable de l'enquête, Emmanuelle Rivière, dit que le moment de Marine Le Pen, c'était 2017. Aujourd'hui, elle fait moins peur, mais elle fait aussi moins envie. Que répondez-vous à ça ?
Bah, je réponds, vous savez, moi j'analyse peu les sondages, hein, mais en revanche je regarde les évolutions, parce que c'est comme ça qu'on lit des sondages, c'est dans leurs évolutions. Et je m'aperçois que alors que j'ai fait 33% au second tour en 2017, je suis aujourd'hui donné dans les différents sondages entre 45 et 47% au second tour. Donc je pense que cette dame fait une analyse qui est une analyse erronée. Maintenant, il y a une situation nouvelle aujourd'hui, c'est que j'ai un concurrent. Évidemment, et quand on a un concurrent, bah, par définition, il y a une forme de division des voix qui s'opère.
Mon
rôle à moi, c'est que cette division ne soit pas assez importante pour empêcher, encore une fois, la famille nationale d'être au second tour, parce que pour gagner, il faut être d'abord au second tour. Hein.
Vous disiez en octobre dernier, Éric Zemmour ferait un bon Premier ministre, vous le pensez toujours ?
Non, j'ai jamais dit ça.
Le 14 octobre dernier ?
Non, pas du tout, j'ai absolument pas dit ça. On m'a dit, est-ce que vous le prendrez comme Premier ministre ? J'ai dit, je pense que c'est pas du tout son objectif. Donc je pense qu'il n'a absolument aucune envie d'être Premier ministre.
Alors venons-en à l'Europe. Vous donniez une conférence de presse sur le sujet hier et Emmanuel Macron prononcera tout à l'heure, dans le cadre de la présidence française de l'Union, un discours devant le Parlement européen. Il veut réformer Schengen, il veut réguler les géants de l'Internet, il veut une taxe carbone aux frontières, il veut un SMIC européen. Sur ces quatre priorités de la présidence française de l'Union, Marine Le Pen, y en a-t-il une seule que vous retoquez ? Une seule avec laquelle vous n'êtes pas en accord.
Non mais il veut, mais qu'est-ce qu'il a fait là depuis 5 ans ? Parce que, excusez-moi, mais je veux, c'est la grande spécialité d'Emmanuel Macron. Moi je l'ai vu il y a plusieurs années maintenant, je pense que c'était il y a un an et demi ou deux ans, aller à la frontière du Pertus pour dire il faut réformer Schengen. Donc on s'attendait à un plan, à quelque chose, à des propositions. Nous n'avons rien obtenu. Tout ça c'est le ministère de la parole. On ne sait même pas quel contenu il souhaiterait comme modification. Il a fait d'ailleurs la même chose pour l'OTAN, souvenez-vous. Il avait dit l'OTAN est une coquille vide. Donc on s'attendait à des propositions. Là encore, nous n'avons absolument rien eu. Donc je crois que tout ça c'est du cinéma. Et il n'obtiendra rien car il n'a rien obtenu en réalité de l'Union européenne dans les 5 dernières années.
Il a obtenu le plan de relance.
Non, il n'a pas obtenu le plan de relance.
Il a obtenu, les Allemands depuis des années refusent l'idée d'un plan de relance.
Il n'a pas arraché le plan de relance. Tout ça est faux. C'est l'intégralité des pays qui ont mis en place ce plan de relance pour évidemment faire face à la crise du Covid. Et en l'occurrence, dans la négociation de ce plan de relance a été catastrophique pour la France, car l'Italie a obtenu d'abord beaucoup plus que nous, mais surtout nous n'avons obtenu que 40 milliards, alors même que nous sommes caution solidaire de plus de 70 milliards. Donc c'est un marché de dupes.
Marine Le Pen, l'une de vos propositions est d'inscrire dans la Constitution la supériorité du droit français sur le droit européen. Or la primauté du droit européen, c'est la base même de l'Union européenne. En inscrivant la primauté du droit français, de facto, vous prenez le risque de faire sortir la France de l'Union européenne. Est-ce que vous prenez ce risque-là ?
Non, pas du tout. D'abord, j'inscris la supériorité du droit constitutionnel sur le droit européen. Non, c'est pas tout à fait la même chose. C'est pas tout à fait la même chose. Et ça me permet de constitutionnaliser le droit des étrangers, qui est quand même le problème fondamental que nous avons avec le droit européen. C'est qu'il nous empêche de maîtriser notre politique migratoire. Donc, j'intègre le droit des étrangers dans la Constitution. Et effectivement, je fais voter par les Français une modification constitutionnelle indiquant que tous les textes européens qui sont contraires à notre loi suprême, c'est-à-dire notre constitution, n'ont pas d'application dans le droit interne français.
Ça contrevient au principe même de l'Union européenne, non. Qui existe. La primauté du droit européen, ça existe depuis le fondement de l'Union européenne et ça a été consacré par le traité de Lisbonne en 2007. Donc à partir de là, très bien, j'entends ce que vous dites, mais on se met en porte-à-faux, on ouvre les risques d'être sanctionné.
Pardon, je vous rappelle que le traité de Lisbonne a été la conséquence d'un référendum où les Français ont dit non. Ils ont dit non. Ils ont dit, les Français, en votant non à la Constitution européenne, la Constitution française doit rester supérieure au droit européen. Eh bien, je suis là pour faire respecter la volonté des Français. Je vais donc réintégrer cette disposition dans le référendum. Deux fois, donc, les Français auront dit « Nous souhaitons que la Constitution soit supérieure au droit européen » et nous ferons donc appliquer cette supériorité.
Mais Marine Le Pen, est-ce qu'au fond, ça ne montre pas que vous n'avez pas fondamentalement changé sur l'Europe depuis 2017 ? Vous vouliez alors un Frexit, la sortie de l'euro. Aujourd'hui, ce n'est plus par voie de référendum, mais de manière oblique. Une sortie, de fait, je poursuis la question de Léa, des traités et donc de l'Union.
Mais non, pas du tout.
Vous ne l'assumez pas, donc.
Mais pourquoi vous me dites que je sors des traités, je ne sors pas des traités ?
Les traités nous imposent de faire primer le droit européen sur le droit français.
Mais non, madame,
vous dites
je suis
que la Constitution
désolée.
Primera.
Mais madame, pardon, les Français ont dit non.
Oui, mais
qui décide ?
J'entends bien.
Mais dans une démocratie,
dans
moi j'ai une question
sort.
À vous poser toute simple, oui. Parce que c'est quand même intéressant. Qui décide dans une démocratie ?
Le peuple.
D'accord. Alors sa voix, la voix du peuple, elle est sacrée. Et quand il dit notre loi suprême que nous nous sommes donnée, qui est la conséquence de siècles et de siècles de réflexion, d'évolution, de valeurs, eh bien, doit être supérieure à tout autre texte, on le respecte.
Au voilà. risque de sortir de l'Union européenne. Il faudra que les Français
non,
votent
madame,
sur la formulation, elle est
madame,
telle qu'elle.
Non, vous dites, je crois que vous dites quelque chose qui est erroné. On n'est pas du tout obligé de sortir de l'Union européenne. D'ailleurs, la preuve en est, c'est que la Pologne vote ce dispositif. Elle n'est pas sortie de l'Union européenne.
Il y a une sanction qui a été ouverte. Il y a une procédure qui a été ouverte pour sanction.
La Hongrie a imposé cette disposition. Elle n'est pas sortie de l'Union européenne. Donc, on peut parfaitement rester dans l'Union européenne en remettant l'Union européenne à sa place. D'accord ? À sa place. Moi, je veux dire, c'est pas un secret. Je considère que l'Union européenne, aujourd'hui, est une structure supranationale qui est illégitime. Et je veux une Europe des nations, une Europe des coopérations entre nations libres et souveraines. C'est clair, cela.
Certes,
donc,
mais pour
je contribue
j'entends.
À imposer aussi ce modèle qui est le modèle que, je pense, les Français souhaitent.
J'entends, Marine Le Pen, mais jusque-là, vous n'y arrivez pas. Regardez, par exemple, vous voulez une Europe des nations.
Non, mais...
Avec quelles nations ? Regardez, vous n'arrivez même pas à faire un groupe commun au Parlement européen, puisqu'il y a deux groupes du bloc national. Il y a d'un côté, vous et la Lega dans un groupe, et dans un autre, les Polonais. Même ça, vous n'arrivez pas à le faire.
Oui, vous m'aviez dit ça quand je n'arrivais pas à faire un groupe, et j'ai fini par réussir à le faire. Vous savez, patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Je pense que des évolutions politiques telles que celle-là, et en Europe, les évolutions politiques qui sont attendues et nécessaires sont importantes. Ça nécessite du temps, ça nécessite des contacts. Je les ai pris, ce contact. J'ai été reçu en Hongrie par le Premier ministre, j'ai été reçu en Pologne par le Premier ministre. Les choses avancent. Justement, on est en train de construire cette Europe des nations que j'appelle de mes voeux, et que j'espère mon élection à la présidence de la République permettra dans des délais qui sont raisonnables.
Encore un mot sur l'Europe, Marine Le Pen, avant d'en passer au dossier de l'immigration. La députée maltaise de centre-droit, Roberta Metsola, a été élue à la présidence du Parlement hier. Roberta Metsola est contre le droit à l'avortement. Une femme anti-avortement à la tête du Parlement, à la place qu'occupa Simone Veil, et au moment où les femmes polonaises se battent pour leur propre droit à l'IVG. Est-ce que ça vous choque ou non ?
Je sais pas, poser la question à ceux qui l'ont élu, poser la question au LR, poser la question aux socialistes français, poser la question aux députés européens En Marche, à Madame Loiseau.
Bon,
nous n'avons pas voté pour eux. Mais au-delà de ça, si vous voulez, on voit bien que le Parlement européen, en réalité, tous les désaccords hypocrites qui existent sur la scène nationale, sont un jeu de rôle, parce que quand ils sont au Parlement européen, tous ces mouvements politiques qui font semblant de se faire la guerre au niveau national se réunissent pour élire la même personne avec un projet politique qui est un projet politique lui aussi commun.
Allez, vous avez dévoilé, on y vient, à l'immigration, vos propositions le 28 septembre dernier. La proposition principale est de faire un référendum pour inscrire dans la Constitution la maîtrise de l'immigration, la priorité nationale, l'éloignement des étrangers condamnés pour crimes ou délits graves ou ceux qui portent atteinte à l'ordre public. Il y a d'autres items. Aujourd'hui, Marine Le Pen, il y a à peu près 250 000 titres de séjour qui sont délivrés par an en France, et le chiffre est peu ou prou le même ces dernières années. Ce qui situe la France parmi les pays les plus restrictifs au monde, c'est un rapport de la Cour des comptes qui détaille les choses. La France n'a délivré que 3,72 titres pour 1000 habitants, l'Allemagne est à 12, la Suède à 14, l'Espagne à près de 8. Où voyez-vous la subversion migratoire ?
La subversion, non, mais la submersion, oui.
Ma langue à fourche, pardon.
Non, mais
submersion.
Bon, c'est pas un nom dit. Il y a une immigration beaucoup trop importante en France. Ça dure depuis des années et des années. Nous recevons un nombre, nous accordons un nombre de visas qui est considérable. Nous naturalisons à tour de bras. Nous régularisons les clandestins à tour de bras. Nous avons un nombre de clandestins d'ailleurs présents sur le territoire qui est probablement beaucoup plus important que les 700 000 qu'à vous, Monsieur Darmanin. Je pense que la politique migratoire en France est hors de contrôle. Voilà. Nous ne contrôlons plus rien. Et ça, c'est un problème. C'est un problème ça entraîne des problèmes de sécurité, c'est un problème financier, c'est un problème de pression, si vous voulez, parfois de culture étrangère sur un certain nombre de nos territoires, de nos quartiers. Donc, il faut régler ce problème. Et pour régler ce problème, il faut s'en donner les moyens. Le seul moyen, encore une fois, c'est ce référendum qui sera validé par le peuple français, qui pourra enfin sur ce sujet exprimer son avis depuis 40 ans alors qu'on ne lui a jamais posé la question.
Vous voulez inscrire la priorité des Français sur les étrangers dans la Constitution, c'est ce que vous voulez faire aussi, c'est ça?
Non, je veux inscrire la possibilité de mettre en œuvre la priorité nationale dans un certain nombre de secteurs. Bon, je vous donne un exemple typique, c'est la priorité nationale dans l'accès au logement social. Voilà. Je trouve que c'est juste, je pars du principe que lorsqu'on est étranger et qu'on vit en France, on doit subvenir à ses propres besoins et qu'on ne peut pas commencer en sollicitant, si vous voulez, la mise en œuvre de prestations de solidarité. Et je trouve que le logement social, c'est une prestation de solidarité.
Oui, mais juste pour comprendre, si vous êtes élue présidente dans 3 mois, un étranger qui est en France légalement, qui est arrivé légalement, on ne parle pas des clandestins, qui paye ses impôts, qui cotise, il sera considéré d'une certaine manière comme une sous-personne par votre gouvernement, ou en tout cas en dessous des Français, sur les droits auquel il a le droit ?
Non, absolument pas. Un étranger qui est présent sur le territoire national aura l'intégralité des droits qui sont ceux des Français, sauf ceux qui sont réservés aux Français. Car il y aura des droits qui seront réservés aux Français. C'est le cas, je vous signale, dans un certain nombre de pays, mais allez pas très très loin, c'est le cas par exemple à Monaco. Vous voyez,
C'est un exemple ?
C'est un exemple, en tout cas, sur le plan légal, oui, sur le plan légal, quand vous êtes monégasque, vous avez une priorité d'accès à l'emploi, une priorité d'accès au logement, et objectivement, je trouve ça juste, moi.
Allez, on marque une première pause dans cette matinale spéciale en votre compagnie, Marine Le Pen. On se retrouve dans quelques instants avec les nombreux auditeurs de France Inter qui souhaitent dialoguer avec vous.
Et tu sais ce que tu veux faire après le bac ?
Ouais, j'ai des idées, économie, gestion, comptabilité, mais faut que je précise. Et toi ?
Moi, j'ai choisi l'informatique.
Ouais.
Tu sais, j'ai découvert plein d'infos sur les études et les diplômes dans le dossier Objectif Sup de l'ONICEP.
Et on le trouve où, Objectif Sup ?
Chez les marchands de journaux ou sur librairie.onicep.fr avec les autres dossiers ONICEP, classe prépa, école de commerce et école d'ingénieur.
Banque Populaire, engagée pour une épargne responsable.
Mon client, Olivier, est architecte. Il privilégie les constructions durables conçues avec des matériaux naturels. Alors pour lui permettre d'accorder son épargne à ses valeurs, je lui ai parlé de nos solutions d'investissement socialement responsables. Elles permettent de soutenir les entreprises soucieuses du respect de l'environnement, de favoriser la création d'emplois en France, ou encore de financer les acteurs de l'économie sociale et solidaire.
Chez Banque Populaire, nous pensons que chacun doit pouvoir donner du sens à son épargne en fonction de sa sensibilité. Banque Populaire.
Investir sur les produits financiers vous expose à un risque de perte en capital.
Vous écoutez France Inter, il est 8h42.
France Inter, un candidat face au 7-9.
Et c'est vous qui avez la main, amis auditeurs, pour dialoguer maintenant avec notre invitée, Marine Le Pen, dans ce studio jusqu'à 9h30. Les 20 prochaines minutes sont à vous. Je commence avec Serge. Serge, bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Bonjour.
Madame Le Pen, gouverner, c'est prévoir. Oui. Expliquez aux Français qui seront les hommes, les femmes de votre gouvernement.
Merci Serge pour cette question. Marine Le Pen vous répond.
Mais Serge, vous me posez cette question à moi, mais en réalité, personne, aucun candidat à la présidentielle ne vous donne la liste de ses ministres. Il y a autour de moi des députés, il y a nombre de députés européens, il y a 300 conseillers régionaux, il y a des chefs de groupe, d'ailleurs, dans les conseils régionaux, qui sont des gens éminemment compétents. Et d'ailleurs, ça se voit dans le projet que nous faisons. J'ai travaillé, par exemple, je vais vous donner un exemple, travaillé ce référendum sur l'immigration avec Jean-Paul Garot, qui est magistrat, qui était l'ancien rapporteur de la loi sur l'interdiction du voile à l'école. J'ai travaillé avec M. Fabre Aubrespy, qui est conseiller d'État. J'ai travaillé avec Christophe Bay, qui est préfet. J'ai travaillé avec M. Mariani, qui est ancien ministre. Donc, je veux dire, il y a des gens qui sont de grandes compétences autour de moi, et ne vous inquiétez pas, le moment venu, évidemment, vous aurez la connaissance de personnes qui, dans le cadre du gouvernement d'Union nationale que je veux mettre en œuvre, eh bien, viendront avec les compétences qui sont les meilleures de l'ensemble du spectre politique, parce que c'est ça le gouvernement d'Union nationale. C'est choisir les gens, non pas en fonction de leur étiquette politique, mais en fonction de leurs compétences, pour peu, Serge, et c'est ça le plus important, pour peu qu'ils soient, entre guillemets, du camp de ceux qui croient en la France. Parce qu'elle est là, la vraie différence, c'est entre ceux qui croient en la France et ceux qui n'y croient plus.
Vous disiez de Montebourg à Zemmour.
Oui, je disais que je n'ai pas d'adversaire dans le camp de ceux qui croient en la France. Et c'est vrai que de Montebourg, je pourrais même dire de Kusmanovic. Vous voyez, je vais même plus loin. De Kusmanovic à Zemmour, je pense que même si nous avons des désaccords sur un certain nombre de sujets, ce sont des gens qui croient à la souveraineté nationale. Vous savez, la souveraineté nationale, c'est fondamental. Et ça, c'est pas négociable. C'est pas une condition, encore une fois, suffisante, la souveraineté, mais c'est une condition absolument nécessaire pour mener une politique qui soit en accord avec ce que veulent les Français.
Avant de prendre le deuxième auditeur, pardon, vous m'avez dit, je n'ai jamais dit Éric Zemmour ferait un bon Premier ministre.
Non,
on l'a retrouvé sur RTL.
Non, mais
le 14 octobre,
non.
Éric Zemmour ferait un bon Premier ministre, mais il me semble évident qu'il ne le souhaite pas.
Oui, non, mais bon, vous voyez, donc il ne le souhaite pas, donc
oui, certes.
Pour finir, je ne le souhaite pas non plus, en fait.
Bah voilà.
Marie est au standard. Bonjour et bienvenue.
Bonjour France Inter, bonjour Madame Le Pen.
Bonjour.
Donc moi je vous appelle concernant la fraude sociale, que vous estimez à 15 milliards d'euros pour pouvoir financer vos mesures, mais que la Cour des comptes estime à 1 milliard.
Non, non.
Donc ça c'est facile à vérifier, vos auditeurs peuvent aller sur le site internet de la Cour des comptes, ils le verront. Toujours dans le même rapport, donc la Cour des comptes estime que le préjudice de l'assurance maladie provient des établissements de santé et des professionnels de santé. Mm-hmm. Donc ma question est simple. Madame Le Pen, comment allez-vous faire pour lutter contre le préjudice à l'assurance maladie qui provient des établissements de santé, et avec quels moyens allez-vous mobiliser pour pouvoir récolter les sous et que les sous arrivent dans les caisses de la
Bien compris.
Maladie.
Bien compris. Merci Marie pour cette question. Marine Le Pen vous répond. Il y a, je crois, dissension déjà sur les chiffres.
Non, c'est pas le sujet, Marie. En réalité, le rapport que vous évoquez de la Cour des comptes est un rapport exclusivement sur le problème de la fraude aux cartes vitales. Les 15 milliards émanent d'ailleurs d'une analyse qui est faite par un rapport sénatorial. C'est l'ensemble des fraudes. Et d'ailleurs, le rapport sénatorial dit entre 15 et 45 milliards. Vous voyez, j'ai pris exprès justement la fourchette basse parce que je veux pas de contestation de chiffres. Je pense d'ailleurs qu'on aura des bonnes nouvelles. Mmh. Car la fraude, c'est pas seulement la fraude aux prestations, c'est pas seulement la fraude aux cotisations. Ce sont les ententes entre les géants, par exemple, de l'agroalimentaire ou de la grande distribution ou des grandes industries. Ce sont les importations alimentaires frauduleuses qui entrent dans notre pays. Donc il y a tellement de fraudes et elles sont tellement, à mon avis, non combattues que j'ai décidé de créer un ministère de lutte contre la fraude qui aura vocation à récupérer cet argent qui est volé en réalité aux Français honnêtes.
Retour au standard, c'est Igor qui a la parole. Soyez le bienvenu, bonjour.
Oui, bonjour, j'ai une question de toute simple. Je voudrais savoir, est-ce que Marine Le Pen pense, comme Éric Zemmour, que Pétain a sauvé les Juifs pendant la guerre?
Non. Merci Igor pour cette question. Marine Le Pen,
merci,
vous répond.
Merci Igor, la réponse est non.
Point à la ligne.
Voilà.
Franck au standard, bonjour.
Oui, bonjour.
Soyez le bienvenu sur Inter.
Merci, je vous adore, j'adore la matinale, j'adore FIP, surtout en région. je vous appelle pour vous dire que j'ai dû voter pour Chirac pour faire barrage, j'ai dû voter pour Macron pour faire barrage, et vu les déclarations sur les non-vaccinés, le fait de dire que c'est des non-citoyens, je trouve ça pitoyable, je trouve ça, mais vraiment c'est de la... Enfin voilà, je trouve ça horrible.
Et donc
Et donc, la prochaine fois, si Marine se retrouve au deuxième tour, je voterai pour elle. C'est un grand plaisir, mais je voterai pour elle parce qu'elle a des convictions et je pense que, en termes de position sur les gens qui ont moins de revenus, c'est celle qui a le plus de...
Et alors, maintenant qu'on a votre vote, est-ce que vous avez une question?
Ma question, ça serait, qu'est-ce que vous pensez du vaccin pour les enfants et de l'obligation vaccinale pour les adultes?
Merci Franck pour votre intervention. Marine Le Pen.
Alors, je suis évidemment opposé à l'obligation vaccinale. Vous savez, j'ai voté là contre le pass vaccinal, mais j'ai aussi voté contre le pass sanitaire pour une raison simple, c'est qu'en réalité, je pense que le gouvernement n'a cessé de mentir sur ce sujet depuis des mois. Ce vaccin, incontestablement, a un bénéfice parce qu'il limite le nombre de formes graves, et encore, ça dépend des variants. Hein. C'était vrai pour Delta, pour Omicron, il n'y a pas de formes graves, donc ça limite en fait pas grand-chose. Mais surtout, ça crée une différence entre les citoyens, ça attente aux libertés individuelles. Et vous imaginez bien que compte tenu de cette situation, je suis tout à fait opposé à la vaccination des enfants, mais pour une raison très simple, c'est que le bénéfice-risque est nul pour les enfants. Les enfants n'ont quasiment aucune chance d'être victimes d'une forme grave. Donc, les vacciner alors qu'ils n'ont aucune chance d'être victimes d'une forme grave est, à mon avis, une forme de maltraitance à leur faire.
La dernière fois que vous êtes venu dans le 7-9 fin novembre, Marine Le Pen, vous posiez la question, à part mettre des contraintes sur les gens, à quoi sert le pass sanitaire? Eh bien, le Conseil d'analyse économique vous a répondu hier. Je ne sais pas si vous avez lu sa réponse sur le pass sanitaire. Le Conseil d'analyse économique estime que le pass a permis d'augmenter le taux de vaccination de 13 points, d'éviter près de 4000 morts en France et d'éviter des pertes économiques d'environ 6 milliards d'euros. Est-ce que vous êtes maintenant convaincu de son utilité?
Absolument pas. Et je remets absolument en doute la légitimité et de cette instance et de ses conclusions. Je veux dire pourquoi? Parce que le chantage, si on met pas le pass vaccinal ou le pass sanitaire, il fallait mettre en place un enfermement à nouveau des Français est un mensonge. C'est un mensonge. La réalité, c'est que on a mis des couvre-feux, on n'était pas obligé de les mettre, on a fermé des commerces, on n'était pas obligé de les fermer, à part le premier confinement que
donc
je
vous
peux...
croyez pas à cette étude,
mais c'est
pour
pas,
vous
je...
c'est, ah, c'est mais, quoi, c'est de la
mais,
propagande d'État,
mais je la trouve, et puis je veux vous dire même je la trouve indigne, parce que j'aimerais bien savoir comment est-ce qu'ils vont nous vendre que le calcul qui consiste à dire qu'on a réussi à sauver 4000 personnes, c'est scandaleux. En revanche, ce qu'ils ont réussi à faire, en effet, c'est à forcer des gens à se vacciner. Il y a qu'un malheur, c'est que le Conseil d'État avait dit que le pass sanitaire ne devait pas servir à obliger les Français à se vacciner. Il devait avoir un objectif d'empêcher la circulation du virus. Donc en fait, on a menti au Conseil d'État, Et aujourd'hui, on admet très, très tranquillement qu'on a violé, en fait, la décision du Conseil d'État. Je trouve ça scandaleux.
Vous balayez le Conseil d'analyse économique. Est-ce que vous balayez aussi ce que dit votre soutien, Robert Ménard, qui vous dit, Marine Le Pen, tu te trompes complètement sur le sanitaire, la vaccination, le pass sanitaire, le pass vaccinal, c'est la seule réponse à l'épidémie.
Eh bien, nous avons un désaccord total et je lui ai dit, Robert, tu te trompes totalement sur le pass vaccinal. Il ne sert absolument strictement à rien. D'ailleurs, s'il servait à quelque chose, nous n'aurions pas 400 000 contaminations par jour, puisqu'il y a 90% des gens qui sont vaccinés.
Au standard, Céline, bonjour.
Oui, Céline Delisle, bonjour à tous, merci pour mon appel.
Je vous en prie.
Moi, je voulais juste faire plutôt une remarque. Je partage pas du tout les opinions de Madame Le Pen, mais je suis tout à fait pour le débat. Et j'ai sur Facebook l'avant-hier, commenté un petit bout d'interview qu'elle a fait sur le truc des expulsions. Enfin, sa volonté d'expulsion des binationaux. Si vous me permettez, je vais dire ce que j'ai mis, ce sera plus simple. En condensé, l'expulsion d'un territoire des personnes à l'état étranger, c'est soumis au droit international, et notamment au fait que les personnes doivent avoir obligatoirement un pays d'accueil. Mmh. On ne peut pas envoyer les gens dans l'espace international, mais les pays à l'autre bout ne sont pas toujours d'accord, même les pays d'origine.
Oui. Alors dites-nous, Céline, dites-nous, Céline, au lieu de nous lire votre texte, dites-nous quelle est votre question à Marine Le Pen.
Il n'y a pas de question, c'est une remarque, c'est que pour pouvoir affirmer qu'on va faire des choses, il faut aussi pouvoir prouver qu'elles sont applicables. Or, ce n'est pas le cas, ni pour l'expulsion, ni pour la suppression des prestations sociales qui iront à l'encontre de la loi française.
Bien compris.
Or, tous les résidents en France se bénéficient des mêmes droits et devoirs.
Merci Céline, merci pour votre intervention. Marine Le Pen vous répond. Elle dit que c'est inapplicable sur l'immigration et que la réforme de la Constitution ne l'est pas plus.
Non mais, pardon. L'expulsion des étrangers en situation irrégulière dans leur pays d'origine, c'est le droit international. Donc je vois pas pourquoi ce serait inapplicable. C'est appliqué dans tous les pays. Ça n'est pas parce que certains pays ne se soumettent pas à ce droit international qu'il faut accepter cette situation. Donc on a un certain nombre de moyens pour forcer des pays comme l'Algérie, par exemple, qui refuse de délivrer des visas pour récupérer leurs clandestins, on a un certain nombre de moyens de les forcer à le faire. La suppression des visas, la suppression de l'aide financière internationale, de l'aide au développement, pardon, la suppression des transferts d'argent vers cette destination. Donc, je vois pas en quoi c'est, en l'occurrence, c'est inapplicable. Pour le reste, madame, c'est clair, l'objectif est de changer la loi. Quand je dis je vais mettre en place la priorité nationale, ça veut dire qu'il y a un certain nombre effectivement de prestations qui sont des prestations de solidarité qui seront réservées aux Français. Voilà, ce sera inscrit en l'occurrence dans la loi, choisi donc par le peuple français. La règle du jeu sera claire. Je ne prendrai pas les gens au dépourvu. Il y aura un délai avant la mise en œuvre de ces mesures. Mais par exemple, pour les allocations familiales seront à l'avenir réservées aux Français. Donc avec ces règles du jeu, si les gens veulent venir, continuent à venir, bah ils viennent. Mais s'ils ne souhaitent pas, s'ils ne supportent pas cette situation, eh bien, ils sont libres de ne pas venir.
Alors précisément, Amal a une question pour vous sur cette thématique.
J'ai pas compris la binationalité, si vous voulez. Je vois pas le rapport avec la binationalité.
Je pense que, oui, elle avait fait une erreur. D'accord. Ce que j'avais sous
les
yeux
était
sur l'immigration.
Le binational, il est national. C'est-à-dire, le binational, il a la nationalité française. Il n'y a pas de difficulté.
Vous avez la parole, Amal. Bienvenue.
Oui, bonjour. Je vous remercie. Eh bien, écoutez, ça tombe bien puisqu'on parle de nationalité. Donc, moi, ma question est très simple, Madame Le Pen. J'aimerais avoir votre position claire sur ce que c'est pour vous être français ou française. C'est-à-dire, quels sont les critères que vous retenez? Est-ce que c'est le fait de posséder donc une carte d'identité ou un passeport français, en tout cas des documents officiels français, ou est-ce qu'il faut être français depuis plusieurs générations, éventuellement non, que les parents soient nés sur le sol français également?
Merci. Alors, merci Amal pour cette question. Marine Le Pen.
Ni l'un ni l'autre. Amal, en l'occurrence, je pense que la nationalité française s'hérite ou se mérite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, évidemment, on est français quand un de nos deux parents est français, bien sûr, ça s'appelle la nationalité par filiation, mais mais on peut également devenir français. La question, c'est dans quelles conditions on devient français. Moi, je suis opposée à l'acquisition automatique de la nationalité française. Je pense que le simple fait de naître en France ne doit pas obligatoirement vous donner vocation à devenir français.
C'est le droit du sol.
Avec, voilà, exactement. Ça s'appelle le droit du sol. Et moi, je suis pour la suppression du droit du sol. Mais je considère qu'on peut toujours devenir français. C'est la naturalisation quand on le mérite, quand on le souhaite, quand on aime la France, quand on participe quand on ne trouble pas l'ordre public, quand on en respecte les lois, les mœurs, les codes, les valeurs, on peut bien entendu aspirer à pouvoir devenir français. Mon objectif n'est pas du tout d'interdire cela, juste je souhaite que les critères soient probablement un peu plus durs qu'ils ne le sont actuellement.
Jules, sur l'application France Inter, vous demande quelle est votre position sur la légalisation du cannabis en France, Marine Le Pen.
J'y suis opposée. Je suis avocat, pénaliste, j'ai été amené à étudier, notamment titulaire d'un DEA de droit pénal, et on a étudié les conséquences de la légalisation du cannabis. Eh bien, les conséquences sont négatives. Voilà, l'idée consistant à dire que le dealer de cannabis, quand on rendra le cannabis légal, ouvrira une épicerie, il paiera son URSSAF et ses impôts divers et variés, je n'y crois pas. Donc, ça ne fera que déplacer en réalité la criminalité. Et puis, je pense que le cannabis, surtout, c'est extrêmement mauvais pour la santé, particulièrement pour les capacités cognitives des jeunes.
Vous voulez d'ailleurs des peines en fonction de la quantité de drogue arrêtée. J'ai vu ça dans votre programme.
Oui, je pense que la lutte contre la drogue est vraiment un combat en même temps éminemment difficile et absolument urgent parce qu'elle est en train de pourrir des territoires entiers, y compris d'ailleurs dans la ruralité. Et il me semble que effectivement, c'est un bon moyen de faire peut-être la différence entre le petit de fin de chaîne et le gros trafiquant.
Jean-Michel Blanquer, qui a fait acte de contrition hier au Parlement, puis sur TF1, en regrettant d'avoir choisi Ibiza et sa symbolique comme lieu de vacances, vous en avez pensé quoi, ça ?
Je pense qu'en réalité, c'est surtout un signe de... Un aveu, en fait. C'est un aveu de la part de ce membre éminent du gouvernement qu'en réalité, ça n'est toutes les décisions qui sont prises et toute la dramaturgie autour de la crise sanitaire n'est pas faite pour des raisons d'inquiétude sanitaire, mais en réalité pour des raisons politiciennes et électoralistes. Voilà ce que je crois. Car si vraiment, encore une fois, on s'inscrivait dans le récit catastrophiste du gouvernement, alors le ministre de l'Éducation ne partirait pas à l'extérieur de la France, quelle que soit sa destination par ailleurs, pendant ses vacances.
Marine Le Pen, on vous retrouve dans quelques instants pour la dernière partie de ce 7-9-30, après une courte pause et le point sur l'actualité.
France Inter, Élysée 2022. Léa Salamé, Nicolas Demorand. Candidat face au 7-9.
Car oui, nous sommes ensemble jusqu'à 9h30 et dans les minutes qui viennent, Marine Le Pen, vous allez être interrogée par Sandy Dauphin, spécialiste environnement à la rédaction de France Inter, par Pierre Aski sur l'international, Yaël Gauze sur la politique, Augustin Trapenard, je le redis, vous posera la dernière question de cette matinale. La parole tout de suite à vous, Dominique Seux, sur l'économie avec une question pour commencer sur le pouvoir d'achat.
Oui, bonjour Marine Le Pen.
Bonjour.
J'ai une question sur le pouvoir d'achat et les prix des carburants qui battent ces jours-ci, ces semaines-ci, des records absolus. À l'automne, c'était au mois de septembre ou début octobre, vous avez annoncé, indiqué votre volonté de diminuer la TVA sur les prix des carburants. Est-ce qu'aujourd'hui, vous maintenez cette proposition et pourquoi spécialement sur les prix des carburants, la voiture, c'est vrai, en France, n'a pas forcément bonne presse.
Vous vous trompez. D'ailleurs, c'est pas que sur les prix des carburants. Je veux baisser la TVA.
On en parlera sur l'énergie, EDF et le gaz
oui,
aussi.
Oui, mais c'est extrêmement important parce que, compte tenu de ce qui se passe actuellement, c'est donc sur le carburant, la TVA passerait de 20 à 5,5. Carburant, fuel, gaz, électricité. Parce que je pense que c'est la mesure la plus performante, la plus efficace pour rendre immédiatement 12
pourquoi
milliards...
Pourquoi les carburants aussi, alors que la voiture n'a pas forcément bonne presse pour des raisons climatiques?
Non mais d'accord, mais c'est pas parce qu'une minorité, si vous voulez, nous explique que la voiture, il faut s'en séparer, qu'on est obligé de leur emboîter le pas. La voiture, c'est le seul moyen pour les Français, pour des millions et même des dizaines de millions de Français, d'avoir une vie sociale, d'avoir une vie familiale, d'avoir une vie professionnelle. Ils s'en servent pour aller au travail, ils s'en servent pour aller se nourrir, pour aller faire des courses. Donc évidemment je ne participe pas de cette volonté des Verts, bien souvent d'ailleurs, de supprimer la voiture.
J'entends effectivement. Donc baisse de la TVA, ça ramènerait aujourd'hui le prix du gazole et du super samplon 95. À quel prix?
Ça ferait baisser en moyenne de 8 euros un plein, ça ferait baisser de 20 centimes le litre.
Donc ça le ramènerait aujourd'hui à...
Et c'est particulièrement utile. Je crois qu'il doit être, le gazole doit être à 1,66 ou 1,70 aujourd'hui.
Effectivement autour de 1,40 ou 1,45.
Est-ce qu'on peut se souvenir quand même que, en réalité, on nous explique que c'est l'augmentation du baril de Brent, mais oui. Les taxes de 2018 et de 2017 n'ont pas été supprimer.
Donc, je reste juste sur votre mesure.
C'est important.
Est-ce qu'elle s'appliquerait aux professionnels, c'est-à-dire qui circulent, les artisans, les millions de gens qui circulent avec des véhicules utilitaires?
Elle s'applique à tout le monde.
Alors, sauf que TVA ne s'applique pas aux artisans, aux utilitaires aujourd'hui.
Non, mais d'accord.
Donc, qu'est-ce que vous prenez comme mesure?
Elle s'applique à tout le monde. Il est vrai que...
Vous faites pour ces artisans puisqu'ils ne payent pas la TVA aujourd'hui?
Alors, vous avez... Enfin, non, c'est pas tout à fait... C'est surtout les entreprises qui payent.
Elle est déductible à 100%.
Je vais agir au niveau, notamment, des péages. J'ai fait une proposition pour que, notamment, les entreprises puissent se voir rembourser en crédit d'impôt une partie des frais de péage. Je vais tout faire pour rendre, encore une fois, du pouvoir d'achat à l'ensemble des Français, pas seulement, d'ailleurs, par l'intermédiaire de la TVA, mais par l'intermédiaire du plafonnement des abonnements, par l'intermédiaire de la redevance et de toute une série de mesures que j'ai développées.
Donc il faudrait prendre des mesures spécifiques, autres pour les professionnels. Quand on regarde la question de la baisse de la TVA, on se dit, mais au fond, 10 à 12 milliards ou 5 milliards sur les carburants, en fait, on va enlever aux personnes qui circulent en voiture, mais on va transférer ça aux contribuables. C'est quand même un peu la même poche, à la fin.
Mais je suis tout à fait en désaccord avec vous, parce que moi, je ne compte pas augmenter les impôts des économies que je fais faire aux Français.
Donc vous ferez faire des économies pour financer ces dépenses nouvelles.
Exactement,
pour les carburants, c'est de l'ordre de 8 milliards d'euros.
Pour
le gaz et l'électricité, si on rajoute, ça fait 14-15 milliards, grosso modo, au total.
Non, monsieur, ce n'est pas grosso modo, c'est 12 milliards. Voilà, ça coûte, la mesure que je propose...
Chiffrage, effectivement.
La mesure que je propose, c'est 12 milliards. Avec, encore une fois, la baisse de la TVA de manière extrêmement importante. Pourquoi? Parce que je considère que ce sont des biens de première nécessité. Chauffer sa nourriture, circuler, ce sont des biens de première nécessité. Ça coûte 12 milliards.
Alors, mettons-nous d'accord sur 12 milliards. Bon, on n'est pas en ce moment à 1 milliard près, mais si on prend ces 12 milliards et qu'on se dit, au fond, il faut en rajouter chaque année pendant un quinquennat de 20 à 30 milliards d'euros pour le retour aux 60 ans et 40 années de cotisation pour les retraites. Si on se dit qu'il y a par ailleurs,
Mais vous mélangez, excusez-moi, mais là... Moi j'aime bien la tchatchouka, mais enfin, il ne faut quand même pas non plus... La tchatchouka.
Très bonne salade confite. Très bonne salade confite. Tomate, poivron, etc.
À un moment donné, pardon monsieur, mais il faut être sérieux. Vous ne pouvez pas mélanger
alors,
tout. Je pense que ce n'est pas raisonnable. J'ai indiqué les économies immédiates que je ferai. Je ferai des économies que j'ai évaluées et dont j'ai d'ailleurs donné publiquement le chiffrage, ce qui n'est pas le cas des autres candidats, sur l'immigration, 18 milliards. Les économies que j'effectuerai, justement en luttant contre la fraude, 15 milliards. Les économies que j'effectuerai sur la contribution que nous versons à l'Union européenne, car je considère que cette contribution aujourd'hui a atteint des niveaux qui sont inadmissible pour revenir à une contribution nette qui pourrait être de 2 milliards
et
demi.
Donc ce que vous nous dites, pardon, voilà. Parce que le montant, hélas, est presque écoulé, ce que vous me dites, c'est que pour financer vos baisses, le pouvoir d'achat d'un côté...
Je n'augmenterai pas les impôts.
La retraite, le retour à la retraite à 60 ans, peut-être la nationalisation des autoroutes, au total, il n'y a aucun problème de financement, alors qu'on attend assez vite les 100 milliards d'euros sans aucune difficulté.
Mais non, mais... écoutez, je suis en désaccord avec vous, et encore une fois, je vous trouve un peu, pour un économiste, un peu globalisant et pas très précis. Bon, moi j'essaye de l'être. J'ai fait encore une fois une conférence de presse précise sur le chiffrage de l'immigration. Sur la nationalisation des autoroutes, permettez-moi de vous dire que vous avez tort, car il s'agit là d'une spoliation des Français, et rendre aux Français ce qui leur appartient et ce qui est amorti, ça n'est pas une perte financière, mais un gain financier pour eux. Ça va d'ailleurs permettre de baisser le prix du péage, ce qui sera, à mon avis, très bénéfique, là encore, au pouvoir d'achat des ménages et de ceux qui circulent sur ces péages. Donc je vous le dis très clairement, et vous savez, je ferai une grande conférence de presse sur le chiffrage économique de mon projet, je n'augmenterai pas les impôts.
Bien compris.
Je ferai des économies sur les dépenses nocives que font les gouvernements français depuis de trop nombreuses années.
Merci Dominique Seux, je demanderai à ma mère de vous faire une tchouk-tchouka et vous verrez, vous serez convaincu et converti. On passe maintenant aux questions d'écologie avec vous, Sandy Dauphin, spécialiste en environnement à la rédaction de France Inter. Question pour commencer, Sandy, sur les éoliennes.
Oui, Marine Le Pen, bonjour. Vous dites que vous voulez démanteler les 8000 éoliennes en France. Elles fournissent 8% de l'électricité. Alors, par quoi allez-vous les remplacer? Concrètement, comment allez-vous les démanteler? Allez-vous, par exemple, dédommager la filière?
Alors d'abord, Madame, pardon, mais je vais déjà faire un moratoire immédiatement sur l'ensemble des chantiers qui sont en cours. J'étais il y a quelques jours à Saint-Brieuc.
Vous parlez à la fois de l'éolien offshore
bien sûr,
et terrestre.
Bien sûr, car c'est un choix qui a été fait et qui est un très mauvais choix. C'est un très mauvais choix économique, c'est un très mauvais choix stratégique, c'est un très mauvais choix écologique et également c'est la ruine évidemment des pêcheurs qui ne pourront plus travailler dans des conditions correctes. Donc j'arrête, je fais un moratoire sur l'intégralité des chantiers de parcs qui sont actuellement en cours.
Il y en a 8.
Et puis j'engagerai le chantier de démantèlement. Mais moi je suis pas Emmanuel Macron si vous voulez. Moi je ferme pas Fessenheim avant que Flamanville soit en fonctionnement, parce que justement, je ne veux pas créer les conditions d'une tension sur le marché de l'électricité.
Mais donc, une précision sur l'éolien offshore, parce que vous dites, j'aime la révolution technologique, dans la première partie de l'interview, mais aller chercher du vent au large pour produire de l'électricité, est-ce que c'est pas une révolution technologique? Tous nos voisins de la mer du Nord l'ont fait, le Danemark, le Royaume-Uni, l'Allemagne, et nous, on se priverait de cette ressource?
Mais bien sûr qu'on va s'en priver, pour une raison simple, c'est que nous, on a du nucléaire.
Et les États-Unis ont du nucléaire, ils ont des champ d'éolien offshore énorme.
Mais parce que les États-Unis, pour vous, sur le plan écologique, c'est un modèle. Pas moi, si vous voulez, excusez-moi.
Le Japon, tous les pays. Mais nous avons aussi des champs d'éolien.
Mais nous avons une capacité avec notre nucléaire d'avoir de l'énergie qui ne soit pas intermittente comme le sont les éoliennes.
Il y a 10 réacteurs arrêtés aujourd'hui. Est-ce qu'on peut pas parler d'intermittence?
Je peux terminer surtout ma phrase, merci. Nous avons de l'énergie qui est à bas coût. C'est ça d'ailleurs qui nous a permis d'être compétitifs par rapport à beaucoup d'autres pays, y compris à l'Allemagne que vous venez d'évoquer. Je pense que ces éoliennes sont en même temps un désastre écologique, que c'est un désastre visuel, que ça atteint notre patrimoine parce que c'est terriblement laid, que en l'état, si vous voulez, on ne sait pas d'ailleurs comment est-ce qu'on va les reconvertir, enfin...
Les centrales nucléaires, encore, voilà. Les démanteler, on ne sait pas tout à fait comment le faire non plus.
On sait
parfaitement. Ça fait 40 ans qu'on essaye d'en démanteler certaines,
on sait parfaitement le faire, d'ailleurs c'est fait pour Fessenheim, on sait parfaitement le faire. Donc, vous avez l'air d'être très attaché à l'éolien, j'y suis fondamentalement, fondamentalement opposé. Vous savez ce que je ferai? Voilà, tout simplement, je vais arrêter de subventionner cette énergie-là. Et croyez-moi, à partir du moment où j'arrêterai de subventionner cette énergie, eh bien, il n'y aura plus d'éoliennes. Parce que ça n'est pas rentable. Et qu'on est en train de payer des gens pour construire des éoliennes, alors même que nous savons qu'elles ne sont pas rentables et que c'est une énergie qui, par son intermittence, nous rend en réalité dépendants au gaz. Parce que ce que vous oubliez de dire, madame, c'est que quand on fait un champ d'éoliennes, il faut qu'à côté, il y ait une centrale à charbon ou une centrale à gaz. On oublie de dire ça. Quand on fait un champ d'éoliennes, d'abord il faut le raccorder.
Oui.
Bon, 100 milliards, hein. 100 milliards, si si, 100 milliards de budgétés pour le raccordement des éoliennes. Excusez-moi, mais je pense que ces 100 milliards seraient mieux utilisés ailleurs. Deuxièmement, il faut qu'il y ait une centrale à charbon et une centrale à gaz à côté, pour une raison très simple, c'est que c'est une énergie intermittente. En ce moment, ça donne rien. Vous voyez, quand il fait froid comme ça l'hiver, rien. Il y a une semaine enfin, en Allemagne...
Aujourd'hui, écoutez, on est en train d'augmenter la puissance des centrales à charbon parce que le nucléaire, il y a beaucoup de réacteurs à l'arrêt. Juste une question sur la filière des éoliennes, parce qu'il y a quand même, une filière française de l'offshore. Il y a des usines qui sont en train de se créer à Saint-Nazaire, à Cherbourg, à Brest. Qu'est-ce que vous dites à cette filière? Ce sont des entreprises françaises, des emplois aussi. Qu'est-ce que vous leur dites? On arrête tout,
pour
on se reconvertit.
Pour l'instant, on importe les éoliennes, d'accord?
Bon. Non, mais il y a quand même des usines de fabrication.
En revanche, il y a une très belle filière qui s'appelle la filière nucléaire, qu'on a hélas laissé tomber depuis un certain nombre d'années, et qui nous permettra demain de faire face à la réindustrialisation, parce que tout ça,
ça dépend de l'énergie. Notamment les SMR, les petits
réacteurs. Ça nous permettra, madame, de faire face au développement de l'informatique, car un certain nombre d'experts nous expliquait il y a quelques années qu'on utiliserait dans le futur de moins en moins d'électricité. Il n'y a qu'un malheur, c'est qu'on en utilise de plus en plus.
C'est ce que dit RTE, en effet. Oui.
Voilà,
plus 30%
d'accord.
En 2050.
Mais comme quoi, vous savez, les experts, il faut se méfier un peu.
Justement,
quand
sur le nucléaire, vous voulez des petits réacteurs modulaires, c'est ça, les SMR qu'on appelle. C'est ça ou
non,
pas forcément.
Moi, je préfère des centrales nucléaires qui soient plus puissantes, mais les SMR peuvent être utiles. Et notamment, ils peuvent être utiles, je crois, à l'exportation. Parce qu'en réalité, la France, elle, à part peut-être dans ses outre-mer, n'a pas besoin de SMR. Mais comme elle maîtrise cette technologie et qu'elle est à la pointe de cette technologie, elle peut effectivement vendre à l'export des SMR qui peuvent être utiles pour des pays qui n'ont pas les moyens de pouvoir développer des grosses unités, des grosses structures.
Donc plus de nucléaire et donc, on a compris, moins d'éoliennes.
Plus de nucléaire et moins d'éoliennes, tout à fait. Et surtout la sortie du marché européen de l'électricité qui fait aujourd'hui que nous sommes obligés, de mettre EDF dans une difficulté financière majeure en l'obligeant à vendre à ses concurrents une électricité à prix coûtant, ce qui est une aberration écologique et une forme de détournement quand même des biens des Français et de la valeur des Français.
Merci Sandy Dauphin. France Inter, il est 9h16, c'est la suite de ce 7-9-30 spécial avec Marine Le Pen et c'est maintenant Yaël Gauze, le chef du service politique de France Inter, Marine Le Pen, qui vous interroge. Et pour commencer, Éric Zemmour, Yaël.
Ben oui, il reste 3 mois de campagne, moins de 3 mois, Marine Le Pen, et sur votre route pour accéder éventuellement au deuxième tour, il y a Éric Zemmour, ce candidat. Si on vous avait dit il y a 6 mois qu'il le serait candidat, qu'il aurait son propre parti, qu'il serait à ce niveau d'intention de vote, vous ne l'auriez pas cru. Souhaitez-vous, allez-vous débattre avec lui avant le premier tour?
Il y aura, j'imagine, des débats avec l'intégralité des candidats avant le premier tour.
Avant Noël, vous étiez d'accord pour débattre tous les deux.
Mais depuis qu'Éric Zemmour a annoncé qu'en réalité, il souhaitait la présence de Valérie Pécresse au second tour, hein, puisqu'il a demandé les parrainages à Valérie Pécresse en disant « Si elle ne me donne pas les parrainages, alors elle ne sera pas au second tour. » Donc j'en ai conclu qu'il souhaitait la présence de Valérie Pécresse. Donc j'ai annoncé que, du coup, je préférais me réserver pour débattre avec son actionnaire majoritaire, c'est-à-dire Valérie Pécresse.
Et qu'est-ce qui vous gêne dans l'idée de l'affronter lui?
Mais non, mais il n'y a rien qui me gêne, si vous voulez, pardon, il n'y a rien qui me gêne. Je crois que il est monté très haut, il a fait l'objet, c'est vrai, d'une grosse promotion médiatique. Aujourd'hui, vous me dites qu'il est sur ma route. Oui, certes, il est sur la même route que moi, mais pour l'instant, et depuis un certain nombre de temps déjà, il est derrière. Donc moi, surtout, ce que je l'appelle, c'est à arrêter de diviser les voix de la famille nationale en n'apportant strictement rien. Il n'a pas plus de chances de gagner face à Emmanuel Macron que moi, il n'en a même beaucoup moins. Il a beaucoup moins de chances d'accéder au second tour. Donc en réalité, on se pose la question de savoir à quoi sert cette candidature.
Vous disiez hier que l'imitation, parce que vous considérez qu'il vous copie-colle un petit peu tous les jours dans sa campagne, que le parasitage sont une forme d'hommage, et vous ajoutiez « je voudrais amicalement lui conseiller de trouver sa propre identité politique ». Il en a une pourtant, une identité. C'est celle qu'avait votre père.
Mais, ce n'est pas moi qui ai dit qu'il me parasitait, ce sont les journalistes et ce sont même les équipes d'Éric Zemmour.
Est-ce que c'est le nouveau Jean-Marie Le Pen?
Si vous voulez, Éric Zemmour, il dit « Marine Le Pen fait un meeting le 5, je vais donc faire un meeting le 5. Marine Le Pen veut aller au Sable d'Olonne, donc je vais lui griller la politesse et je vais aller 2 jours avant elle au Sable d'Olonne. Voilà, je lui dis gentiment que c'est pas comme ça qu'on fait de la politique. Que pour faire de la politique et être pris au sérieux et être crédible, il faut avoir sa propre identité. »
Mais il en a une, c'est ça que j'essaie de voir avec vous.
Non,
est-ce que c'est celle de Jean-Marie Le Pen?
Non, non. Enfin, je sais pas. Je ne sais pas ça. Je ne crois pas d'ailleurs que Jean-Marie Le Pen tiendrait les mêmes propos sur un certain nombre de sujets que, en l'occurrence, que Éric Zemmour. Mais en tout cas, il a une forme de brutalité auquel je pense les Français n'adhèrent pas. Et un manque d'empathie. Et pourtant, l'empathie, c'est nécessaire quand on fait de la politique.
Est-ce que vous n'êtes pas en train de devenir, à vous deux, l'extrême droite la plus bête du monde? Parce que si on regarde les intentions de vote, en sachant que les sondages sont une photo à l'instant T de l'opinion, vous faites quasiment, grosso modo, 30% à vous deux. À quel moment vous allez lui tendre la main pour réussir cette union de du camp national que vous appelez ainsi?
D'abord, je ne suis pas l'extrême droite. Je me permets de vous le rappeler. Moi, je défends des idées nationales. Rien dans ce que je propose n'est extrême.
Est-ce que vous allez lui tendre la main à un moment donné?
Deuxièmement, il a décidé de s'engager dans la campagne. Ça s'appelle une compétition électorale, cher monsieur. Je suis désolé de vous le dire. Peut-être vous trouvez ça stupide.
Donc jusqu'au premier tour.
Mais ça s'appelle une compétition. Je ne vois pas aujourd'hui Éric Zemmour. C'est dommage d'ailleurs, mais je ne le vois pas renoncer à sa candidature. Donc moi, j'appelle au rassemblement. Mais ce rassemblement, manifestement, s'effectuera au second tour.
Votre campagne, vous allez bientôt accélérer, opération 5000 marchés, avec des bus floqués avec votre nom, votre photo. Est-ce que ça ira pour le financement de la campagne? Je crois que vous avez essuyé le refus d'une cinquantaine de banques. Est-ce que ça commence à devenir très compliqué pour vous, financièrement?
Oui, bien sûr, ça commence à devenir compliqué, bien entendu, parce que la Banque de la démocratie qui avait été promise par Emmanuel Macron et qui a été votée par l'Assemblée nationale, eh bien, après avoir été votée, a été jetée à la poubelle, sans qu'on ait la moindre explication sur la disparition de cet outil qui était très attendu.
Vous confirmez 50 refus de banque?
Oui, 50 refus de banque, oui. Oui,
vous allez faire comment, alors?
Je continue à chercher, parce qu'on m'a encore laissé la possibilité de pouvoir trouver dans la loi une banque européenne, donc on continue à chercher au niveau de l'Europe pour trouver une banque, mais cette situation devrait scandaliser tous les gens attachés à la démocratie. Parce que si ce sont les banques qui peuvent décider qui est candidat et qui n'est pas candidat, si vous voulez, on a quand même du souci à se faire.
Si vous échouez au premier tour ou au deuxième tour, Marine Le Pen, si ça se passe mal pour vous, est-ce que vous continuerez la politique? Est-ce que vous laisserez le RN à Jordan Bardella qui le préside désormais, ou est-ce que vous continuerez après une troisième campagne présidentielle
D'abord, je pense qu'on peut pas abandonner la politique, parce que la politique, c'est une histoire d'amour, si vous voulez. Voilà, vous aimez les gens, vous les aimez pas. Si vous les aimez, vous faites de la politique. Si vous les aimez pas, vous faites autre chose. Bon, ça, c'est déjà la première chose. Donc, je continuerai de toute façon à faire de la politique. Mais comment j'en ferai si jamais je ne suis pas élu? Eh bien, il y a mille façons de continuer à faire de la politique. Ce qui est sûr, c'est que je resterai toujours en défense des intérêts de la France et des Français.
Pas forcément au RN.
Si, au RN, enfin, bien sûr, vous croyez que je vais changer de parti politique? Il y a quand même peu de chance.
Mais vous l'avez quitté provisoirement pour la campagne, c'est pas
ça? Non, mais j'ai quitté la présidence.
Merci beaucoup.
Ne mélangez pas la présidence et l'appartenance au mouvement. Je resterai évidemment toujours dans mon mouvement, bien sûr.
La clarification est faite. Merci Yaël Gauz. On termine ce tour de table avec vous, Pierre Aski, sur les questions internationales. Pierre, l'Ukraine.
Oui, bonjour Marine Le Pen.
Bonjour.
Et vous avez critiqué hier la politique française et européenne vis-à-vis de la crise ukrainienne actuelle. Qu'auriez-vous fait de différent si vous aviez été présidente? Et surtout, pour régler cette crise, faut-il accepter les demandes russes de garantie de sécurité?
Alors, d'abord, j'ai critiqué, j'ai fait un constat, M. Aski, que je pense vous partagez aussi, si vous voulez, à savoir que, en réalité, la France a diplomatiquement quasiment totalement disparu, et que, alors même qu'elle avait pris des actions fortes dans ce conflit sous Hollande, nous avons été mis de côté, enfin, l'Union européenne a été mise de côté, puisqu'en fait, on a confié à l'Union européenne le soin de notre diplomatie, ce que je considère être une erreur, et l'Union européenne a été totalement mise de côté. Aujourd'hui,
par Vladimir Poutine, qui a préféré négocier avec les Américains.
Oui, enfin par les Américains aussi. Vous savez, ils sont deux dans ces cas-là. Donc les Américains et les Russes ont décidé de discuter entre eux sans l'Union européenne. Donc ça révèle, si vous voulez, que cette Union européenne qui s'était vendue comme pouvant être plus forte qu'un pays seul, eh bien, se révèle être plus faible qu'un pays seul. Donc je pense que si la France avait continué à faire de la diplomatie, probablement, elle aurait été à la table de ces discussions.
Et est-ce qu'elle aurait accepté les demandes russes de garantie de sécurité ?
Non, je n'en sais rien. Ça c'est encore une fois, c'est un débat qui aurait eu lieu autour de la table. Mais pour l'instant, on ne nous pose même plus la question. Donc voilà.
Je vous pose la question
à vous. Dire la situation.
Je vous pose la question à vous. Est-ce que vous pensez qu'il faut accepter ?
Je pense qu'il faut surtout arrêter
la limitation de souveraineté de l'Ukraine que propose Vladimir Poutine.
Non, je pense qu'il faut la désescalade. D'accord. Je pense qu'il y a des accords, vous le savez, qui ont été passés dans l'histoire avec la Russie, qui consistaient à ce que l'OTAN ne vienne pas positionner.
Vous savez qu'il n'y a pas d'accord. La Russie dit qu'elle a eu des promesses, mais il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de traité, il n'y a pas de texte.
D'accord, mais vous savez très bien que c'était acquis avant il y a quelques années. Ce débat-là n'était pas discuté. Ce constat-là n'était pas discuté. Bon, donc l'idée. C'était quoi ? J'essaie d'expliquer à ceux qui nous écoutent. L'idée, c'était quoi ? C'était que les Russes ne voulaient pas que l'OTAN puisse positionner des forces à leurs frontières. Bon. Or, les États-Unis, avec l'Union européenne, en réalité, sont dans une forme de guerre froide à l'égard de la Russie, dont je conteste l'utilité. Voilà, je le dis très clairement.
Vous savez à quand remonte le dernier élargissement de l'OTAN ?
Non, mais je conteste
l'utilité. 2004.
Oui, mais je conteste l'utilité de la guerre froide qui est menée contre la Russie. Je pense que nous n'avons pas intérêt à entrer dans cette logique qui est peut-être une logique américaine qui répond à des considérations électoralistes intérieures, si vous voulez, aux États-Unis. Mais nous, la France, nous n'avons pas intérêt à mener je ne sais quelle guerre avec la Russie.
Alors quel type de relation souhaitez-vous établir avec la Russie ? En 2017, vous aviez été reçu par Vladimir Poutine.
Oui, enfin Emmanuel Macron avait reçu d'ailleurs aussi Vladimir Poutine. Les mêmes relations.
Après l'élection.
Les mêmes relations que l'on doit entretenir avec l'ensemble des grandes puissances. Une relation qui soit en même temps une relation de respect, dépourvue d'une hostilité de principe et qui vise surtout à défendre les intérêts de notre pays. Vous voyez, on a pris des sanctions contre la Russie. Enfin, plutôt, on a accompagné l'Union européenne qui a pris des sanctions contre la Russie. La première victime de ces sanctions, ça a été la France. Et non pas la Russie. Donc, la vraie question, c'est est-ce que la boussole de nos dirigeants aujourd'hui, c'est l'intérêt de notre pays ou c'est l'obéissance à une idéologie qui est celle de l'Union européenne, qui est celle des États-Unis
d'Amérique.
Alors,
vous n'avez rien dit dans votre conférence de presse sur l'OTAN. Est-ce que vous sortiriez du commandement militaire ?
Oui, je voudrais sortir du commandement intégré de l'OTAN, mais surtout, je souhaiterais que l'OTAN se réoriente. Vous voyez, je partage le constat d'Emmanuel Macron, c'est devenu une coquille vide, mais moi je voudrais remplir cette coquille d'un contenu, et je pense que le contenu devrait être la lutte contre le fondamentalisme islamiste. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui, en réalité, représente le plus grand danger pour le monde entier et pour l'intégralité des pays, qu'ils soient d'ailleurs ou non musulmans. Et je pense que c'est ce qui justifie la mise en commun de nos intelligences, de nos volontés.
Mais vous voulez sortir de l'OTAN et vous refusez la défense européenne ?
Est-ce que sortir du
commandement militaire ? Et vous refusez la défense européenne ? Est-ce que vous n'affaiblissez pas la défense de la France ?
Ah non, au contraire.
Quelques mots, Marine Le Pen.
Au contraire, la réalité, c'est que l'espèce de défense européenne qui a été conçue par Emmanuel Macron avec l'Allemagne a affaibli la France. Puisque, en réalité, on a travaillé sur des projets militaires en commun, sauf que c'est l'Allemagne qui nous interdit de les exporter à un certain nombre d'autres pays. Donc, en fait, on s'affaiblit. Nous avons, en France, une capacité militaire qui est sans commune mesure en Europe. Je tiens à le rappeler, quand même, avec un modèle d'armée complet. Et je pense que nous n'avons aucun intérêt à nous engager, autant que l'a fait Emmanuel Macron, avec précisément un pays comme l'Allemagne, avec lequel nous avons énormément de divergences, en fait, sur ce sujet.
Merci Pierre Aski pour cette intervention donc et votre questionnement sur les enjeux internationaux. On a de petites questions de fin rapides à vous poser avec Léa, Marine Le Pen.
Avant la question d'Augustin Trapenard, puis ce sera fini. Rapidement, liberté, égalité, fraternité, vous choisissez quoi ?
Ah bah, les trois. Il n'y a pas à choisir. En fait, c'est un tout. La réalité, c'est que c'est parce que c'est un tout qu'on est un si beau pays et avec des valeurs aussi fortes.
Louis-Ferdinand Céline ou Victor Hugo ?
Ah, Victor Hugo. Sans aucune difficulté, j'adore.
C'est vrai ?
Ah oui, j'adore.
Ah ouais.
Oui. Ce siècle avait deux ans, grand écrivain Sparte. Déjà, Napoléon perçait sous Bonaparte.
Le grand écrivain universaliste, ouvert, européen, le grand européen.
Ah, mais vous avez les goûts et les couleurs.
Non, mais ça nous surprend.
Les États-Unis d'Europe.
Les États-Unis d'Europe. C'est comme ça. Vous faites entrer qui au Panthéon ?
Ah, vaste question. Peut-être l'abbé de l'épée. qui est le créateur de la langue des signes, parce que je pense que ça a été un apport considérable, précisément à ceux qui étaient mis à l'écart, en fait, de ce qui fait la nature humaine, c'est-à-dire la conversation. Je trouve que ce serait un beau signal.
Pour les personnes handicapées.
Un beau signal à l'égard des personnes qui sont effectivement frappées de handicap, mais un beau signal aussi qu'il faut tout faire pour justement continuer dans cette belle politique de l'inclusion qui, à mon avis, est à mettre à l'honneur de notre pays.
Donc, vous répondez à Éric Zemmour sur ce qu'il avait dit sur les enfants handicapés, qu'il vaudrait mieux mettre dans des institutions spécialisées.
Mais nous aurons un accord avec Éric Zemmour, c'est qu'en réalité, il y a peut-être 1000 Français qui mériteraient d'entrer au Panthéon, tellement nous avons une multitude de génies et de talents dans l'histoire de notre pays.
Et à 9h29, c'est Augustin Trapenard.
On n'a pas Booba ou Orelsan.
Ah oui, c'est vrai, on avait Booba ou Orelsan.
Je
ne connais pas.
Non.
Vous connaissez ni l'un ni l'autre ?
Bon, vous savez, je me suis arrêté à...
Ah
non, non, mais même pas. Non, non,
le
mais
rap,
même...
vous n'aimez pas.
Ah non,
rap.
Mais même pas. Je me suis arrêté à Fugain, Sardou, Julien Clerc. Alors,
ni Clara Luciani, ni personne.
Faut demander à mes enfants.
Alors, vous voilà, Augustin Trapenard. Bonjour, vous avez la parole pour la dernière question de cette matinale.
Oui, une dernière question, Marine Le Pen, sur votre programme culturel. On vous entend pas souvent, effectivement, sur le sujet. Vous insistez quand même sur la notion de patrimoine, au point de vouloir faire inscrire dans la Constitution la défense et la promotion du patrimoine historique et culturel français. Alors, c'est intéressant. Qu'est-ce que vous entendez par patrimoine ? Est-ce que c'est une affaire d'époque, de territoire, de langue ? Est-ce qu'il s'agit de valeurs qui seraient essentiellement françaises ? Auquel cas, lesquelles ? Qu'est-ce qu'il s'agit pour vous de défendre et de porter à travers cette politique du patrimoine.
Bah,
le tout, mon capitaine, parce que je pense que, si vous voulez, on est dépositaire d'un patrimoine matériel. Alors, vous avez raison, c'est le patrimoine immobilier, historique de la France, mais aussi d'un patrimoine immatériel. Et voyez, au premier rang duquel, la langue. Je veux pas vous mettre en difficulté, hein, mais j'ai reçu de votre print des questions pour l'interview que je ferai tout à l'heure. Tout était en langue inclusive. Voyez. Ça, pour moi, ce sera pas possible. Voilà.
Ouais.
Je pense.
Pardon,
c'est en langue inclusive.
C'est un mail.
Ça, oui, c'est le mail de votre, vous savez,
de
votre
notre équipe.
Service web. Donc c'est en langue inclusive. C'est pas une accusation. Hein,
oui, parce mais que c'est pas dire... le questionnaire sert pour c'est des hommes ou pour des femmes. C'est le
oui,
même.
Ben ça
c'est
s'appelle l'écriture inclusive. Et bien moi, je suis opposé à l'écriture inclusive. La défense de la langue, ça fait partie aussi de la défense du patrimoine. Encore une fois, c'est pas, il s'agit pas là de vous mettre en difficulté parce que je vois qu'il y a des collectivités qui aujourd'hui utilisent cela, qu'il y a des conseils régionaux, des conseils départementaux. Il faut y mettre fin parce que la langue et l'écriture française, ça fait aussi partie de notre patrimoine.
Voilà, mais je redis que ce questionnaire est commun à nos invités et S et à nos invités et ES, et donc il est écrit de cette manière-là. Il n'y en a qu'une et une seule de cette version.
Ça s'appelle donc l'écriture inclusive et je suis contre.
Marine Le Pen était au micro de France Inter ce matin. Merci d'avoir participé à cette matinale spéciale 9h31.
C'est Augustin, moi qui vous remercie.
Augustin Trapenard, Boomerang.